VOA Afrique, les infos. À Washington, Idrissa Dia.
Bonsoir, il est 17h, temps universel. Les informations nous ouvrons sur le crash de l'Airbus A320 dans les Alpes françaises. La boîte noire a livré des informations importantes sur ce qui s'est passé dans l'avion avant le crash. Alors que le pilote était sorti momentanément du cockpit, le copilote s'est enfermé et a actionné la descente de l'appareil. Pour le procureur français en charge de l'enquête judiciaire, il y a eu volonté de détruire l'appareil. Le ministre allemand de l'Intérieur a assuré jeudi qu'il n'y avait pas d'indice d'un contexte terroriste chez le copilote après le premier recoupement des informations. Ailleurs dans le monde, l'aviation saoudienne a bombardé aujourd'hui des installations militaires clés au Yémen dans le cadre d'une offensive impliquant des alliés arabes du Golfe Persique et d'autres pays de la région en soutien au président internationalement reconnu du Yémen. Abderrabou Mansour a dit « Les frappes aériennes visaient des sites autour du principal aéroport de la capitale Sanaa et ont endommagé des maisons dans le secteur. L'Iran a qualifié l'offensive d'étape dangereuse qui va envenimer la crise au Yémen. » Téhéran appuie les rebelles houthis qui tentent de renverser M. Hadi, mais un haut responsable iranien a exclu une intervention militaire de son pays. L'actualité africaine maintenant, l'ONU renouvelle pour un an le mandat de sa mission en République démocratique du Congo. Les Nations Unies décident de réduire les effectifs militaires de 10% sur fond de vives tensions avec Kinshasa sur le sort de cette mission. Selon une résolution adoptée unanimement jeudi, la MONUSCO verra ses effectifs réduits de 2000 hommes sur près de 20 000 soldats autorisés. La résolution souligne aussi la nécessité de rendre la MONUSCO plus souple et mobile et plus efficace sur le terrain. Selon des diplomates du Conseil, Kinshasa réclamait le retrait immédiat de 6 000 casques bleus. La force est présente depuis 15 ans en RDC et essentiellement déployée dans l'Est, en proie à des conflits depuis plus de 20 ans. C'est une des missions les plus importantes et les plus chères déployées par l'ONU. En RCA, plus d'une dizaine d'éleveurs peuls ont été tués et plusieurs autres retenus en otage ces dernières 48 heures dans la préfecture de la Nana Gribizi, au centre-nord. Des sources locales attribuent le forfait à un groupe d'anti-Balaka. Par ailleurs, un puissant chef anti-Balaka a été arrêté à Boda, dans le sud du pays. Le point avec Félix Yepassis Zembro.
Boukar Abdoul Garba, représentant de la Fédération nationale des éleveurs centrafricains de la Nana Gribizi, affirme qu'au moins une dizaine d'éleveurs peuls ont péri et une cinquantaine d'autres ont été enlevés au cours d'une attaque menée par des anti-Balaka dans quatre villages non loin de Kaka-Bandoro. Le même témoin précise que plusieurs troupeaux de bœufs ont été aussi emportés. Confirmant l'attaque, le préfet de la Nana Gribizi, Gaston Yendemo, a parlé de 9 morts et 4 blessés pris en charge pour l'instant à l'hôpital de Kaka-Bandoro. D'autres sources parlent de représailles aux assauts menés par des éleveurs peuls le week-end dernier dans plusieurs villages sur l'axe Kaka-Bandoro. Le bilan provisoire de ces attaques faisait état d'une vingtaine de morts. Par ailleurs, à Boda, dans le sud du pays, un puissant chef anti-Balaka, dénommé Sangolais de son vrai nom Willy Kodji, a été arrêté dans la nuit par la gendarmerie nationale. L'homme, âgé d'une vingtaine d'années, est accusé de graves crimes dans la localité. La population de Boda se réjouit de son arrestation.
Au Tchad, les victimes du régime répressif de Hissène Habré se félicitent de la condamnation de plusieurs responsables des services de sécurité de l'ex-dictateur à de lourdes peines de prison par la Cour criminelle spéciale de N'Djamena. Mais du côté de la défense, on estime que le tribunal est allé trop vite en besogne. Mais du côté des victimes qui avaient porté plainte en l'an 2000, le soulagement et la joie prédominent. Au micro de Timothée Donaimaï, on écoute Ousmane Abakar qui revient tout d'abord sur les sévices endurés sous le régime d'Hissène Habré.
D'abord, je suis prisonnier de guerre. Je suis arrêté à Faye-Largeau en 1983 et puis j'ai mis 4 ans et demi en prison. J'ai subi toutes les sortes de tortures. J'ai vu mes frères en prison mourir comme les pétailles mères pendant la sécheresse.
Vous avez gagné votre procès. Quel est votre sentiment?
Bon, mon sentiment est le sentiment de joie. Je suis tellement content et je suis ravi. Tout le monde est là, en train de vraiment chanter et parler de notre histoire. Je suis tellement content.
Les sentences ont été rendues. Qu'est-ce que vous attendez d'autre?
Nous attendons maintenant le grand procès de Lycée Fabré qui est à Dakar. Et nous attendons aussi que les décisions qui ont été prises par le juge ici au Tchad, ça doit être appliqué.
Quelles sont ces décisions?
Bon, nous attendons ce que nous avons demandé plus longtemps, le monument, c'est le plein de morts, et puis la musée nationale, la piscine, et puis l'indemnisation aussi des victimes.
Ousmane Abakar, victime de la répression sous le régime de l'ancien président tchadien Hissène Habré.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Selon le ministère libyen de la Santé, le tout premier malade souffrant du virus à Ebola au Libéria en plus d'un mois, une femme, a été placée en quarantaine. Son état est stable et elle réagit favorablement au traitement pour l'instant. Les médias libériens l'ont identifiée comme une certaine Ruth Togbe, qui aurait été en contact étroit avec le public, notamment dans deux écoles de Monrovia, où elle vendait des aliments cuits à la fois aux élèves et aux enseignants. Mais selon certaines sources, elle aurait pu contracter la maladie en contact de son petit ami, qui a lui-même été malade du virus à Ebola et a survécu. Talbot Nyanswa, ministre adjoint de la Santé pour les services de prévention, a précisé que les autorités s'activent à identifier les personnes avec qui la dame aurait été en contact. Des pirates ont pris d'assaut un bateau de pêche iranien au large des côtes somaliennes. Leur première prise en près de 3 ans, a-t-on appris jeudi auprès de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui se dit inquiet d'une possible résurgence de la piraterie dans cette partie de l'océan Indien. Sécurité renforcée en Ouganda ce jeudi, une décision qui fait suite aux menaces d'actes terroristes par les islamistes somaliens Al-Shabaab, mais aussi à une mise en garde des États-Unis contre un risque d'attentat imminent à Kampala. Jacques Aristide.
L'ambassade américaine dans la capitale ougandaise a révélé hier avoir obtenu des informations sur des menaces terroristes probables visant des endroits fréquentés par des Occidentaux, incluant des citoyens américains à Kampala, et qu'un attentat pourrait avoir lieu prochainement. Pour le porte-parole de l'armée ougandaise, Paddy Ankunda, l'avertissement est absolument lié à Al-Shabaab, tel que le rapporte l'AFP. Le groupe somalien avait déjà perpétré en 2010 un double attentat qui avait fait près de 80 morts à Kampala. Les Shebab, d'après lui, semblaient avoir identifié des points vulnérables comme cibles potentielles et la sécurité avait été renforcée en conséquence. Les insurgés somaliens menacent régulièrement d'attaquer l'Ouganda, grand contributeur à la force de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, qui combat les islamistes aux côtés des fragiles autorités de Mogadiscio.
Voilà la région de Diffa, dans l'extrême est du Niger, est sous état d'urgence suite aux attaques répétées des islamistes de Boko Haram. Dès la tombée de la nuit, toutes les rues sont désertées, mis à part les patrouilles de l'armée qui ont déjà arrêté plus de 300 suspects. Notre envoyé spécial Idriss Fall s'est entretenu avec le colonel Moussa Salao Barmou, commandant de la zone de défense numéro 5 et chef du centre régional des opérations de Diffa.
Au moment où je vous parle, l'armée nigériane n'est pas encore arrivée à Damasak. Malheureusement, nous sommes obligés de rester jusqu'à ce qu'ils viennent prendre le relais. Après, on pourra continuer nos opérations. Mais bon, on ne va pas continuer à attendre indéfiniment aussi là-bas. Nous sommes en train d'envisager la possibilité de continuer notre opération de ratissage le long de la Koumadougou.
Et quelle est la situation au plan sécuritaire à l'intérieur de la région de Diffa? Parce qu'on entend souvent des coups de feu quand même, des incidents de tir pas loin de Diffa.
Oui, la situation pour le moment au niveau de Diffa, je peux dire qu'elle est sous contrôle. Si maintenant vous entendez le coup de feu, c'est que souvent nous avons notamment des individus qui cherchent à s'infiltrer dans la ville, parce qu'effectivement, de plus en plus.
Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information.
Soyez au cœur de l'information.